Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 4 septembre 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Nous voilà de retour de vacances, d'une petite pause de notre balado. Oui. Quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis notre pause?
Ben les marchés ont quand même très bien terminé le mois d'août. Le mois s'est terminé en territoire positif sur le TSX. On se souvient, là, à fin juillet, ça avait été assez chaotique. Même les premiers jours du mois d'août, ça avait été difficile. Finalement, au TSX, on termine en hausse de 1,2% pour le mois d'août. Au S&P 500, en hausse de 2,4%. Ceci dit, le dollar canadien a également progressé durant le mois d'environ 2,2%. Donc, ce qui reste qu'en dollar canadien, le S&P 500 est essentiellement flat pour le mois. Du côté du Nasdaq, on termine en hausse de 0,7, mais avec l'effet du dollar canadien, le Nasdaq termine donc en baisse de 1,5%. Et hier, des chiffres économiques là, qui ont été un peu plus faibles que prévu. Le marché n'a pas apprécié les nouvelles. Donc, on parle d'une baisse là, sur le Nasdaq de 3,3%. On a déjà parlé à quelques reprises de Nvidia. Nvidia a atteint un nouveau record hier. Donc, c'est l'entreprise qui a perdu le plus de valeur boursière en dollars en une journée. Donc, la valeur de l'entreprise a baissé de 280 milliards de dollars juste dans la journée d'hier, ce qui était un record. Précédemment, c'était Meta, là, il y a une couple d'années, qui avait perdu la bagatelle d'environ 250 milliards là, en une journée. Le dollar canadien donc a augmenté 2,2 durant le mois. On sait que là, les taux d'intérêt aux États-Unis, là, vraiment, le marché anticipe de plus en plus de baisses de taux. Les chiffres économiques faibles aux États-Unis là, fait que les anticipations, donc les taux n'ont pas bougé encore officiellement, là, mais les anticipations s'accélèrent. Il y a une nouvelle aussi, donc on a encore, même si ce n'est pas un titre qu'on a recommandé beaucoup là, dans les derniers temps, mais c'est un titre qui est quand même largement détenu par les investisseurs, là, le titre de BCA qui a subi une décote de sa cote de crédit par Moody's. Donc, quand ça fait la nouvelle, là, on lit ça, puis « Oh mon Dieu, tu sais, qu'est-ce qui va arriver avec mes actions de BCA? » Faut quand même garder en tête qu'au mois de mars dernier, Moody's avait avisé les marchés qu'il mettait BCE sur la liste de surveillance avec une implication de possiblement la décoter. Donc, la décote qui a eu lieu, finalement, là, tu sais, c'est comme une vieille nouvelle, là, tu sais. À partir du moment où l'agence de crédit dit on surveille l'entreprise pour possiblement la décoter, le marché anticipe et assume qu'elle sera décotée. Et quand elle est officiellement décotée de seulement un cran, ben c'est comme un soulagement, là, tu sais, ça aurait pu être deux ou trois. Donc, juste un, finalement, le marché a quand même, tu sais, malgré une journée fortement négative hier, le titre de BCE a augmenté. Fait que des fois, juste aller au-delà de la nouvelle qui peut sembler très, très négative, finalement, le marché a réagi positivement. Fait que même si ce n'est pas un titre là, qu'on recommande là, depuis plusieurs années, on favorise une autre entreprise de télécom là, pour nos clients, mais il y a quand même, c'est un titre, qui une entreprise québécoise qui est largement détenue par beaucoup de gens. Là, fait que je trouvais important de le mentionner là, ce matin.
Largement détenu et détenu depuis longtemps.
Oui, exact.
Merci beaucoup, Martin. C'est le début de septembre, l'école recommence, on voit avec le trafic, hein, il y a de plus en plus de voitures sur la route. Ouais. À ce temps-ci de l'année, on aime beaucoup parler du REE ou Régime enregistré d'épargne études. Mm-hmm. C'est un excellent véhicule pour épargner pour ses enfants, ses petits-enfants ou quelqu'un qui nous tient à cœur pour leurs études postsecondaires. Il y a beaucoup de modalités à ce régime.
Ouais.
Très mal compris, très difficile de comprendre aussi lorsqu'on commence à retirer du régime. On est là pour ça.
Il y a beaucoup de détails.
Oui, vraiment. Donc, on est là pour ça. Et aujourd'hui, on va démystifier quelques aspects du régime. Donc, premièrement, Martin, est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit résumé de l'histoire du régime? Pourquoi ça a été mis en place?
Oui, je pense depuis 4 ans, ça a 3-4 fois qu'on parle du REE, mais on n'a jamais mentionné ça. Ça vient de où, ça, le REE, cette histoire-là? En fait, puis je ne savais pas, là, je l'ai appris là, en faisant les recherches pour répondre à la question. En fait, ça a été créé dans un jugement de la Cour de l'impôt en 1974. Donc, il y a un contribuable qui avait créé une fiducie pour son enfant. Et puis donc, la Cour de l'impôt voulait que le contribuable là, considère les intérêts gagnés sur les placements dans ses revenus. Et puis, la Cour de l'impôt a donc donné raison au contribuable, Jack Quinn. Alors, merci, M. Quinn, là, d'avoir essentiellement contribué à créer ça. Il n'était pas tout seul. Il y avait quand même des plusieurs centaines de contribuables là-dedans. Donc, le gouvernement ne s'est pas attaqué à Jack Quinn pour son 100$ de cotisation. C'était plus gros que ça. Mais c'est essentiellement ce qui a créé le concept duré en 1974, rétroactif à 1972. Officiellement, de façon plus contemporaine, c'est en 1996 que Paul Martin a officiellement lancé là, la subvention canadienne pour l'épargne-études, qui a vraiment créé le RÉE dans sa forme qu'on le connaît présentement. Donc, les droits de cotisation ont augmenté au fil du temps. Et donc, au Québec, en 2007, on a introduit l'incitatif québécois pour l'épargne-études. Donc, dans sa forme actuelle, un RÉE, on a le droit de cotiser jusqu'à 50 000 $ dans un RÉE. La durée de vie du régime est d'un maximum de 35 ans. Donc, on peut attendre longtemps avant de confirmer qu'on n'ira pas à l'école, là, jusqu'à l'âge de 35 ans, en fait. On a droit donc à une subvention canadienne pour l'épargne-études de 20%, un maximum de 500 $ par année et de 7200 $ sur l'ensemble du régime, en plus du 10% de l'incitatif québécois. Il y a un bon canadien d'épargne-études qui est en fonction des revenus. Honnêtement, dans ma pratique, j'ai jamais eu un client qui a eu droit à ce bon-là. Donc, pour les ménages à faible revenu, puis on va se dire la réalité, nos clients, généralement, ils ne qualifient pas dans cette catégorie-là. Donc, nos clients ne reçoivent pas ce bon-là. Ça m'est jamais arrivé de le recevoir.
Et comment le gouvernement utilise le régime comme véhicule pour accorder des subventions qui favorisent l'éducation?
Oui, donc on a droit de cotiser, là, de recevoir jusqu'à 500 $. Donc, c'est une façon d'aider les parents à payer les études des enfants. Donc, essentiellement, le gouvernement dit, si vous économisez pour les études des enfants, je vais vous aider à payer ça. Donc, si on met, par exemple, 2500 $ dans le régime d'épargne-études de son enfant, bien, le gouvernement va rajouter 500 $ par-dessus. Le Québec rajoute un autre 250. Et c'est au moment où on commence les études postsecondaires qu'on va faire des retraits pour... donc, le gouvernement va avoir contribué à payer les études. Donc, on va discuter là, des modalités de retrait. Mais essentiellement, c'était une façon... De payer pour les études en récompensant les efforts de ceux qui épargnent pour payer les études postsecondaires de leurs enfants.
C'est quasiment un rendement, une partie de rendement garantie parce qu'on reçoit cette subvention.
Tu pars à 30 %. Tu sais, jour 1, tu as 30 % de plus d'argent d'économiser pour ton enfant. Mettons que tu fais zéro rendement, ben, tu as quand même 30 % de plus d'argent d'économiser. Fait que c'est vraiment là, un régime qui a plein de détails, qui a certaines complexités, mais qui est quand même très, très intéressant là, pour les gens qui ont une capacité d'épargne puis qui veulent se donner une petite chance. Là. On sait que les études, si on veut envoyer son enfant, bon, le cégep, c'est pas très dispendieux, mais l'université, ça peut être un petit peu plus dispendieux. Puis, c'est bon aussi pour aller étudier à l'étranger. Là. Donc, si on pense qu'on va aller étudier aux États-Unis ou dans une autre province du Canada, où là, ça peut coûter quand même passablement plus cher, c'est reconnu, là. Ça fonctionne même si on va étudier à l'étranger. Il y a un site là, qui nous donne la liste de tous les établissements éligibles, mais normalement, si c'est une université là, en bonne et due forme qui est reconnue, là, c'est tout à fait éligible même si c'est à l'étranger.
Puis j'insiste aussi, puis je pense que c'est important d'insister que c'est pas juste les parents, hein. Ça peut être les grands-parents, ça peut être une façon de dire, ben ça me tente pas de leur acheter des jouets, j'aimerais mieux contribuer à leur éducation, donc c'est une belle façon de contribuer au futur de votre future génération de votre famille.
Exact.
Donc, la partie qui est... C'est facile de comprendre comment contribuer au RÉE. C'est toujours difficile de comprendre comment fonctionnent les retraits de ce compte-là.
Ouais.
Donc, quelles sont les modalités? Comment optimiser le régime? On en a déjà parlé. Je pense qu'on pourrait en parler à chaque année, faire un petit rappel sur comment ça fonctionne.
Bien, la perception, c'est que l'argent qui est accumulé dans le régime d'épargne-études doit servir à payer directement les études. Donc, tu sais, vous n'avez pas besoin de fournir un paquet de factures d'école, puis de livres, puis de crayons pour retirer de l'argent du RÉE. En fait, on a simplement... l'étudiant, l'enfant, le bénéficiaire du régime doit être inscrit à une école d'enseignement post-secondaire. Donc, Et la première session d'études, il y a un retrait maximum de paiement d'aide aux études de 8 000. Donc, si on veut décortiquer le régime d'épargne études, il est composé de quoi, finalement? Il est composé des cotisations qu'on a mis dedans. Il est composé également des subventions reçues du gouvernement et du rendement qu'on a réalisé sur cet argent-là. Donc, quand je vais faire des retraits, donc l'enfant, il est éligible, il est à l'école, on a sa preuve d'enseignement, le montant qui provient des subventions et du rendement, ça devient un paiement d'aide aux études. Donc, l'argent qui va être retiré du régime, ce sera sous forme de paiement d'aide aux études. Ce paiement-là va être imposable dans les mains de l'étudiant. Donc, souvent, il y a un petit job, travail à temps partiel. Donc, l'étudiant devrait payer pas ou peu d'impôts sur ce montant-là, mais c'est imposable dans ses mains. Les cotisations qui sont dans le régime, donc le parent, lui, il a mis de l'argent dans le régime, il n'a pas eu de déduction d'impôt pour sa cotisation dans le REI, donc l'argent ressort du REI dans les mains du parent, s'il veut, sans impôt. Donc, faut bien comprendre, là, l'argent, le REI appartient au souscripteur, là, je dis le parent, mais c'est le souscripteur qui n'est pas nécessairement le parent de l'enfant. Le souscripteur contrôle cet argent-là, il peut décider de le reprendre, son argent, à tout moment. Donc, quand on fait le retrait éligible à l'enfant, le paiement d'aide aux études, là, le chèque, c'est le nom de l'enfant qui est sur le chèque, il est payable à l'étudiant, alors que les cotisations peuvent être prises directement par le souscripteur du régime.
Est-ce que tu peux nous parler de régime individuel puis régime familial?
Donc, il y a certaines institutions qui offrent uniquement des régimes individuels. Chez nous, on offre les deux. L'avantage, bon, le régime individuel le dit, là, si on a un seul régime, en fait, on peut avoir plusieurs régimes. Mettons qu'on a trois enfants, on a trois régimes distincts avec un seul bénéficiaire par régime. Donc, si ce bénéficiaire-là ne poursuit pas d'études postsecondaires, ben le régime se ferme. Donc, on reprend nos cotisations, le gouvernement reprend ses subventions, puis les rendements réalisés deviennent imposables. L'avantage du régime familial, ben là, c'est présumons la même famille qui a trois enfants, mais là, il y a un seul régime avec trois bénéficiaires. Donc, quand je cotise, je peux mettre donc trois fois 2 500 par enfant, par exemple. Je vais recevoir les subventions pour tous ces enfants-là dans le même régime. Quand je vais faire mes retraits, là, c'est un peu comme ça vient tout se fondre ensemble. Donc, à la fin, quand je vais faire des retraits, ben je vais sortir de l'argent. Là, dès qu'il y en a un qui est éligible pour à l'école, ben je vais faire des retraits de paiement d'aide aux études pour cet enfant-là. De sorte que si, mettons, le deuxième, lui, décide qu'il va pas, qu'il poursuit pas d'études, ben les cotisations, les subventions qui ont été versées pour cet enfant-là vont rouler finalement aux autres enfants du régime. Donc, il y a tout un avantage d'avoir un régime familial plutôt qu'un régime individuel. Au niveau de la flexibilité, c'est possible aussi où il y a des familles où ben un des deux, finalement, il y a un très bon emploi d'été, il gagne 15, 20 000, 30 000 par année, l'autre gagne moins. Ben là, on peut venir jouer dans les portions imposables, sortir un peu plus de cotisations pour celui qui a beaucoup de revenus, puis un peu plus de paiement d'aide aux études pour celui qui a moins de revenus. Donc, venir un peu niveler la taxation ou l'imposition au niveau des bénéficiaires. Donc, ça donne vraiment le régime familial qui est offert là, chez VMD, là, c'est le régime habituellement qu'on rouvre là, par défaut, c'est vraiment là, beaucoup plus avantageux, beaucoup plus flexible que d'avoir un régime individuel. Puis là, ben, oups, sur les trois enfants, il y en a un qui ne va pas à l'école, puis là, ben, on perd les subventions qui ont été versées pour cet enfant-là.
Puis concrètement, comment on sort l'argent? Qu'est-ce qu'on demande chez Valeurs Mobilières Desjardins pour sortir l'argent du régime? Est-ce que tu peux nous parler un peu
de ça? Oui, donc on va demander soit une lettre d'attestation d'études postsecondaires, donc les enfants qui sont au cégep. Là, pis, et même si le cégep, ça coûte pas cher, là, on vous encourage à nous parler dès que l'enfant a 18 ans, par exemple. Tu sais, on peut très bien dire, ben je retire du REI. L'enfant n'a pas besoin de cet argent-là parce que le cégep, ça ne coûte pas cher. Ben, je vais ouvrir un CELI au nom de l'étudiant qui a 18 ans, puis je vais prendre le retrait du REI, le mettre dans le CELI au nom de l'enfant, puis continuer de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le rendement. Mais ça, c'est donc attestation d'études postsecondaires, ça peut être une lettre, là, officiellement, les enfants qui ont tout Omnivox là, au cégep. Mmh, oui. Donc, ils peuvent aller chercher cette lettre-là sur Omnivox ou la cédule, l'horaire. Donc, ils doivent avoir le logo de l'école, le nom de l'enfant, la session en cours, le statut d'étudiant. Là, donc, il y a une liste de critères, là, mais donc c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on fait signer au souscripteur un formulaire de retrait où on va indiquer là, qu'est-ce qu'on retire. On retire-tu des cotisations là, ou du paiement d'aide aux études et ainsi de suite.
Puis on ne contrôle pas qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là ou qu'est-ce que l'enfant fait avec cet argent-là.
Si vous voulez rénover votre cuisine, là, vous avez le droit, là, mais en bout de ligne, il faut que votre enfant soit inscrit aux études postsecondaires. Donc on s'entend, je le dis à la blague, là, le régime a été créé pour favoriser le versement puis le paiement des études postsecondaires, mais il n'y a pas de lien direct. Là, quand on sort l'argent, après ça, on peut dépenser l'argent sur n'importe quoi. Dans notre cas, à l'époque, ben, les enfants avaient besoin d'une petite voiture pour aller à l'école. On leur a acheté une rutilante Honda Civic 2004 pour à peu près 5 000 $. C'est, fait que c'est à ça que ça l'a servi. Puis, oui, c'était pour l'école, mais c'était évidemment pour toutes sortes d'autres raisons aussi.
Absolument. Puis la réalité, c'est que l'école n'est pas super chère ici au Québec, ouais, comme on peut voir aux États-Unis. Mais des fois, les jeunes, ils veulent vivre en appart, etc. Donc, on peut les aider de cette façon-là. Comment est-ce qu'on peut optimiser le régime? Est-ce que tu as des idées autour de ça?
Bon, il y a un concept de dire, ben moi, je vais aller chercher le maximum de subventions possibles. Donc, si j'ai le droit d'avoir 7 200 de subventions fédérales, ben je veux m'assurer que je vais cotiser à chaque année pour aller chercher le 7 200. Mais j'ai le droit aussi de mettre 50 000 dans un RAE, right? Puis si je mets 50 000, ben 20 % de 50 000, ça fait 10 000, right? Donc, j'ai une portion de ma cotisation qui n'aura pas de subvention, mais ça permet quand même d'aller chercher de fractionner mon revenu de placement. Donc, si je suis un parent, j'ai mon REER est au top, le CELI est au top, j'ai encore de l'argent hors REER, puis j'ai un enfant, ben je peux très bien dire, parfait, l'année 1, là, mon enfant naît, je mets 15 000 dans son REER tout de suite. Bien, je vais avoir juste 500 $, là, je vais avoir un gros montant qui n'aura pas de subvention, mais le 15 000 va tout de suite commencer à générer du rendement à l'abri de l'impôt, puis éventuellement qui sera imposable dans les mains de l'enfant, au lieu de dans mes mains à moi qui a un salaire plus élevé. Puis ensuite, les 14 années suivantes, je vais mettre mon 2 500 pour aller chercher mon 20 % de subvention. Donc, si je mets 15 000 l'année 1, puis 2 500 les 14 suivantes, j'aurais cotisé le 50 000 au complet et j'aurais atteint le maximum de subvention. Et ensuite, ben là, je vais avoir évidemment un très gros REE, probablement trop d'argent pour ce que ça coûte au Québec, même faire un doctorat probablement, mais ça leur a permis de faire un certain fractionnement de revenus puis d'aller chercher un avantage fiscal comme ça en transférant à l'étudiant des revenus de placement qui me seraient autrement attribués à moi sur mon salaire plus élevé.
Intéressant. Finalement, si le bénéficiaire décide de ne pas poursuivre les études post-secondaires puis il reste l'argent à la fin de les études, qu'est-ce qui arrive?
Ouais, c'est un petit peu complexe. Quand on rouvre le REE, on demande le nom d'un établissement post-secondaire sur le formulaire. Puis moi, en 20 ans de carrière, ça ne m'est jamais arrivé d'envoyer un chèque à une école, là, mais en théorie, prenons le cas là, où l'étudiant, bon, il va à l'école, on fait les retraits, puis tout ça, ça va bien, là, le REE diminue, il tombe presque à zéro, mais je vous rappelle que le paiement d'aide aux études, il est composé des subventions du gouvernement et du rendement. Donc, tant qu'il y a de l'argent, là, même si j'ai tout sorti le paiement d'aide aux études, puis il reste encore de l'argent, bien là, ça régénère encore du paiement d'aide aux études parce que je réalise du rendement. Donc, à la toute fin du régime, ça peut arriver qu'il reste quelques centaines de dollars. L'étudiant, il a fini son doctorat à côté, il va plus à l'école, il reste quand même de l'argent dans le régime qui provient du rendement, possiblement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, ça peut être envoyé à une école d'enseignement qui aurait été désignée sur le formulaire. Honnêtement, on n'a jamais fait ça, mais c'est prévu là, dans la loi. Concrètement, mettons que l'étudiant interrompt ses études ou ne va pas à l'école, bien, les cotisations qui ont été versées sont retournées aux souscripteurs, sans impôt. Les subventions sont retournées au gouvernement, ça fait du sens. Puis le rendement qui aurait été réalisé à l'abri de l'impôt dans le REE, ben deviendra à ce moment-là imposable dans les mains du souscripteur. Ben ça fait du sens. Si tu n'avais pas cotisé au REE, tu aurais placé ton argent à l'extérieur du REER, tu aurais généré des revenus imposables, puis tu aurais payé de l'impôt là-dessus. Ben dans le fond, on remet comme ça aurait été si on n'avait jamais eu d'enfant, d'une certaine façon.
Parfait. Ben merci beaucoup, Martin. Je pense qu'il y a d'autres sujets qui pourraient être attaqués sur le REE, mais on va s'en tenir à ça. Pour nos clients et partenaires, si vous avez des questions concernant ce balado ou vos besoins et objectifs personnels, Martin et moi sommes toujours disponibles avec toute notre équipe, Mathieu puis Michel. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.